Bon, il y a quand même certains dossiers à discuter avec notre ami Ray. Bonjour Ray, comment ça va?
Salut messieurs.
Salut Ray.
Bon, on n'est pas habitué à Montréal de voir des fans, là, je dirais, extrêmes. Hier, le CF Montréal a annoncé que ses fans, qui avaient une section au Stade Saputo, là, c'était la fin, qu'ils étaient barrés en raison de comportements, d'agressivité, ils étaient hostiles, bref, ils n'étaient pas reposants. Comment tu vois ça, toi, comme ancien responsable de marketing et tout ça, un club qui barre peut-être ses partisans les plus fanatiques?
Bien, c'est un sujet sensible, Paul. Tu sais, les ultras, qu'on les appelle dans la section 132 du Stade Saputo, bien, ils ont toujours eu un comportement intense, voire agressif. Dans un sens, les équipes de la MLS ont toujours voulu créer un petit peu de cette ambiance européenne. C'est-à-dire, cette espèce de regroupement de partisans derrière un des buts, derrière les deux buts parfois, qui génère beaucoup de bruit, qui intensifie le match, qui ajoute de l'ambiance jusqu'à un certain degré. Alors, c'est sensible parce que dans le sport aujourd'hui, tu vas attirer un public diversifié. Puis dans ce sens-là, tu dois protéger l'expérience pour les jeunes, pour les femmes, pour les personnes plus âgées, tu sais, pour le regroupement collectif des partisans. Fait que tu peux pas laisser les choses dérailler, si on veut. C'est le principe de diversifier les gens, mais à la fin, ils veulent se faire divertir, avoir une belle journée, une belle soirée. Puis s'ils sentent qu'ils sont en danger, bien là, il faut que tu réagisses forcément. C'est parce que c'est du divertissement. Puis là, bien, les équipes en Amérique du Nord voulaient créer un peu de ce que c'est parce qu'on tente d'imprégner la culture du foot en Amérique. Ça prend du temps, ça. Ça prend parfois une génération complète de 25 ans. Puis la MLS l'encourage dans un sens. Mais je pense qu'il y a trop de cas confirmé où les agissements de ces gens-là ont dépassé la norme, ont été menaçants pour des visiteurs d'équipes extérieures qui viennent jouer contre le CF Montréal. Puis à un moment donné, l'équipe a réagi de façon très directe hier en disant « c'est fini, on suspend cette section-là temporairement ».
Mais Ray, qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN des amateurs de foot qui les rend aussi fanatiques? Là, je parle pas seulement là, des ultras de Montréal, mais en Europe, là, parce qu'il y a eu des épisodes très, très, très célèbres. Tu sais, c'est des choses que tu vois pas. Tu peux voir parfois un accrochage dans les gradins au football, mais tu vois pas ça au hockey, au baseball, au football, au basketball. Tu vois pas ça dans les autres sports. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN de ces gens-là qui les pousse à commettre des gestes comme ceux-là, là, comme envahir des terrains, tenir des propos racistes en Europe, c'est assez fréquent, là.
Oui, bien, l'exemple le plus concret, Alain, tu fais bien de le mentionner, ce sont les hooligans qu'on appelle en Europe, qui ont créé toutes sortes de risques, de dangers. Ils ont fait tomber des stades, des espaces dans les gradins, ça a causé des décès. C'est des gens qui sont barrés littéralement sur des listes dans certains pays, certains stades, on ne les laisse pas rentrer, ils sont identifiés comme étant des criminels qui contribuent à ces occasions-là, ces manifestations-là. Bon, alors c'est quoi qui est là-dedans? C'est la culture d'abord. T'sais, pour avoir vu des matchs de foot en Europe, j'étais allé à Liverpool à un moment donné avec George Gillette à l'époque, puis les gens à Liverpool, c'est un endroit évidemment très intense, une riche histoire de soccer puis de succès, mais les gens sont là parfois, Alain, quand on pense à des gens qui achètent une paire de billets de saison. En Europe, ils achètent souvent un seul billet de saison. Puis le voisin qui est à côté de l'individu dans le stade peut l'être pour 20 ans, mais ce n'est pas un membre de la famille. Ça devient comme une autre famille, ton équipe sportive là-bas. C'est beaucoup plus intense, émotif, beaucoup plus de passion qu'en Amérique du Nord. Puis quand tu gères une équipe en Amérique du Nord, tu regardes toujours un peu le comportement général. La NBA, c'est un produit plus convivial. La NFL, c'est un produit un petit peu plus agressif. Il y a plus de violence. Les gens consomment beaucoup d'alcool dans un match, un stade de football de la NFL. Le hockey, dans certaines villes, c'est menaçant, c'est intimidant. Quand tu vas dans les gradins à Philadelphie ou à Boston, tu vas trouver que c'est très différent que l'ambiance.
Mais ça n'a jamais atteint le niveau qu'on voit au foot, là. C'est...
Absolument pas. Mais ça reste qu'on voit des petits signes comme ça d'une ville à l'autre, puis d'une équipe, puis d'un sport à l'autre. Mais cette réaction-là hier, moi, je pense que l'équipe aurait probablement dû chercher à rencontrer ces individus-là de façon plus régulière, à créer un pont, à trouver des solutions, à travailler en amont plutôt que de fermer instantanément. Parce que là, on crée encore une fois une réaction à l'équipe? C'est-tu lié au changement de nom, au changement de la marque? C'est-tu lié à l'équipe qui connaît moins de succès depuis quelques années? Je ne sais pas, mais à quelque part, l'équipe a raison de réagir. C'est juste que moi, j'ai trouvé que la réaction hier était très sévère.
Bon, il y a une grosse journée dans le calendrier des amateurs de sport aujourd'hui, parce que c'est le début de saison de la NFL.
Je sais, je connais des gens très près de moi qui ont fait leur poule.
Et les champions du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay qui affrontent les Cowboys de Dallas. C'est une rentrée sous le signe de la vaccination. Je sais qu'on a établi des règles extrêmement sévères au niveau de la NFL. Mais c'est pas tous les clubs qui sont au même niveau. Je sais que les Buccaneers, semble-t-il, sont vaccinés à 100%. Puis au Minnesota, on a un peu de misère à convaincre les joueurs, là. C'est pas pareil, là.
Ouais, c'est un début de saison qui va être normal, dans le sens que quand on regarde l'an dernier, il n'y avait personne dans les gradins ou presque, là, 10-15%. Cette année, les stades vont être pleins. L'an dernier, la NFL a réussi un miracle. Il n'y a eu aucun match annulé. Et cette année, en juillet dernier, ils ont pris les grands moyens. Ils ont envoyé le message aux joueurs puis aux équipes. Si un match est annulé, à cause de cas de COVID qui se multiplient chez une équipe, ben un, l'équipe va déclarer forfait, c'est-à-dire va perdre le match par défaut, et les joueurs des deux équipes ne seront pas payés. Bon, voilà le message qui était nécessaire. C'est de la vaccination qu'on veut. Alors, chez le personnel de la NFL, aujourd'hui, en date du 9 septembre, 99% des gens dans le personnel administratif sont vaccinés, et chez les joueurs, aujourd'hui, 93,5%. Bon, on l'a atteint le seuil qui était souhaité. Il y a des équipes, Alain, qui tirent de la patte un peu, mais il y en a qui sont à presque 100% aussi. Donc, tout va bien. Le message a passé. Il faut être vacciné. Puis pour entrer dans le stade, il va falloir qu'on ait des preuves de vaccination. Alors, la NFL a pris les gros moyens. Ils ont les moyens, eux, de sortir la masse et de frapper fort. Et ils l'ont fait. Mais le résultat est ainsi. Parce que Dieu sait que dans les matchs de la NFL, il y a toutes sortes de partisans qui sont là. Il y a des démocrates, il y a des républicains. Il y en a qui résistent au vaccin, puis il y en a qui sont complètement en faveur de ça.
Mais en fin de semaine, c'était le début de la saison football collégial américain, puis la santé publique aux États-Unis, Dr. Fauci, entre autres, là, puis plusieurs personnes n'en revenaient pas. Là. Les stades étaient remplis. Pas de masque, pas de distanciation, pas rien.
Absolument. Absolument. Puis ça, par exemple, dans le niveau NCAA, Alain, probablement que les conditions sont pas les mêmes. Là, on parle de survie de certains programmes de sport. Alors, ils sont allés all out, si tu me permets. Puis il y avait effectivement 80 000 personnes dans plusieurs stades.
Mais ce qui est extraordinaire, là, c'est quand tu regardes état par état,
oui.
Le niveau de vaccination, ça varie énormément. Et quand tu regardes, je pense à la Floride, je pense à l'Idaho, où les cas ont explosé avec, comme on a vu ici, là, une pression sur le réseau de la santé. Puis en parallèle, t'as plein d'activités, puis t'as même le gouverneur qui dit « portez pas de masque, on n'a pas besoin de ça », même si la situation a complètement viré avec le variant Delta.
On dirait qu'on est complètement aveugle par rapport à ce qui se passe.
C'est incroyable.
Non, mais sérieux, puis t'as raison de le souligner, Paul, que le sport là fait pas exception à la règle. C'est pas parce que la NFL a un message fort puis les joueurs sont vaccinés, puis les joueurs puis les équipes ont pris les moyens, ça c'est une chose, bien sûr. On veut protéger le produit. Mais les partisans, puis les gouverneurs, puis les dirigeants d'État, puis d'État en État, c'est le désastre total. Et ils ne comprennent pas qu'on se retrouve exactement au même point que l'an dernier, et les gens qui refusent contribuent à l'augmentation très rapide, surtout chez les jeunes. Alors, il y a un dossier très chaud là, actuellement, puis il va falloir que les dirigeants des ligues réagissent. Puis on l'a vu, le Canadien a annoncé hier que ça va être 7500 personnes au Centre Bell. Il y a des équipes dans l'Ouest canadien qui ont déjà annoncé qu'ils allaient être pleins. Tu sais, ça varie même de province en province au Canada.
Merci, salut, bonne journée.
Bonne journée, messieurs.
8h38. Qu'est-ce qui se passe sur la 20?